Bonjour à tous et bienvenue dans le Labomatique, votre émission consacrée à la recherche scientifique sur Radio Campus Rennes 88.4. Aujourd'hui, nous avons rencontré Fanny Le Bonhomme. Elle travaille au Centre de Recherche Historique de l'Ouest à l'Université Rennes 2 et réalise une thèse en co-tutelle avec l'Université de Potsdam en Allemagne. Elle travaille actuellement sur le quotidien de la psychiatrie en République démocratique allemande dans les années 1960. Elle s'intéresse plus particulièrement au concept de perméabilité de l'institution. Pour cela, elle étudie les archives d'une clinique psychiatrique. La liberté de ton donné dans les dossiers qu'elle examine permet d'en savoir plus sur la RDA et sur le quotidien des habitants de cette société où régnait l'autocensure. Fanny Le Bonhomme, bonjour.
Bonjour.
Alors, donc, vous êtes étudiante au sein du laboratoire Serio à Rennes 2.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter ce laboratoire ?
Alors, donc, le Serio, c'est le Centre d'études et de recherche historique de l'Ouest. Donc, c'est un laboratoire qui dépend du CNRS et qui est donc affilié à l'Université de Rennes 2 et qui regroupe des doctorants et des chercheurs donc en histoire.
Vous réalisez actuellement une thèse en co-tutelle.
Oui, donc la thèse en co-tutelle, c'est-à-dire que j'ai à la fois un directeur de recherche en France, donc qui est Jacqueline Saint-Clivier à Rennes 2, et un directeur de recherche en Allemagne, donc Thomas Lindenberger, qui dépend de l'Université de Potsdam. Donc, je suis donc un cursus franco-allemand. Et l'avantage, c'est d'obtenir à la fin de ces 3 années de thèse le titre de docteur à la fois en France et en Allemagne.
Donc vous dépendez de différentes structures d'accueil ?
Alors donc je dépends de l'université de Rennes 2 et de l'université de Potsdam, donc pour la co-tutelle, pour l'inscription à la faculté. Et sinon, je dépends aussi donc du CERIO, le laboratoire dont on a parlé à l'instant. Je suis inscrite aussi au Centre interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne, donc le CIRA à Paris. Et en Allemagne, je travaille beaucoup avec l'Institut d'histoire de la médecine de Berlin. Donc d'où l'intérêt en tant que doctorant de s'inscrire dans différents réseaux pour être épaulé et encadré dans ces recherches.
Comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire une thèse ?
Alors donc j'ai commencé, donc j'ai fait des études d'histoire à Rennes 2. Mon master portait déjà sur la République démocratique allemande, puisque je suis partie en première année de master à Leipzig. J'ai travaillé sur une contestation étudiante en RDA dans les années 60. Je suis revenue en master 2 en France, ensuite j'ai passé les concours de l'enseignement. J'ai obtenu le CAPES, donc j'ai commencé à enseigner, j'étais stagiaire en lycée, ensuite j'ai enseigné en collège. Et c'est à ce moment-là donc, que j'ai eu l'envie de constituer ce projet de thèse pour poursuivre en fait les recherches que j'avais amorcées en master.
Donc vous travaillez sur l'Allemagne ?
Oui.
Alors est-ce que c'est une passion ou est-ce que c'est le hasard complètement de travailler sur ce pays et sur une période particulière de l'histoire de l'Allemagne ?
Alors j'ai toujours été attirée par la culture germanique, j'ai fait allemand première langue dès la 6e. Puis ensuite j'ai toujours beaucoup aimé l'Allemagne et le fait d'être partie en master m'a donné l'envie en fait de continuer à travailler sur l'Allemagne de l'Est, sur cet espace finalement que je ne connaissais pas du tout et qui n'était pas si loin de nous, que ce soit au niveau géographique ou au niveau chronologique. Et c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans ce projet de thèse sur la RDA.
Donc vous travaillez sur la RDA, comme vous venez de le dire.
Oui.
Alors est-ce que vous pouvez nous faire un bref rappel du contexte historique ?
Bien sûr. Donc la RDA, c'est la République démocratique allemande. Donc c'est un régime dictatorial, on peut le dire, hein, qui se met en place en 1949 dans un contexte donc de guerre froide suite à la Deuxième Guerre mondiale, qui va durer jusqu'en 1989, jusque donc à la chute du mur de Berlin et donc à la dissolution de la RDA, et donc la réunification aura lieu quelques mois plus tard. La RDA, c'est donc une dictature qui se base sur l'omniprésence d'un parti, donc un parti unique, le Parti Socialiste d'Unité d'Allemagne, le SED. C'est ce parti qui contrôle tout, qui est censé encadrer la société, qui est censé l'incarner, qui est censé l'éduquer, qui la réprime également. En RDA, donc, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté non plus de circulation, notamment à partir de la construction du mur de Berlin. Le pouvoir politique est omniprésent, la propagande est omniprésente, et notamment tout ce qui est basé autour de l'idéologie marxiste-léniniste. Donc on se trouve vraiment dans un cadre très contraignant en tant que citoyen.
On va parler de votre sujet de thèse maintenant. Mm-hmm. Ben, de quoi il s'agit ?
Alors donc je travaille sur la psychiatrie en République démocratique allemande. J'essaye de voir dans quelle mesure donc, le contexte dictatorial que je viens de décrire peut influencer le quotidien des services psychiatriques. J'essaye de voir quelle pourrait être la spécificité de la psychiatrie est-allemande. Et pour ce faire, j'utilise différentes archives. Et je travaille notamment sur la situation d'une clinique à Berlin-Est. Donc c'est la clinique universitaire de la Charité. C'est une clinique qui appartenait au plus grand hôpital d'Allemagne de l'Est, en fait. Elle se trouvait tout près de la zone frontière, donc quasiment au bord du mur. Et je travaille plutôt sur les années 60 à l'intérieur de cette clinique. Et ma principale source sont... les dossiers des patients.
Comment est-ce que se déroule votre travail au quotidien ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes amené à aller en Allemagne ? Est-ce que vous travaillez sur des archives, mais est-ce que vous rencontrez des gens aussi ?
Je divise mon année en deux temps, en fait. L'année dernière, j'avais pas de charge d'enseignement à Rennes 2, donc j'ai pu optimiser ma présence en Allemagne. Donc, je suis restée 8 mois en Allemagne. Cette année, l'année prochaine, je suis chargée d'enseignement. J'ai 6 heures par semaine en première année d'histoire à donner. Donc, lors du premier semestre, je suis en France et au second semestre, en Allemagne. Lors du premier semestre, donc, je reprends un peu les archives que j'ai déjà dépouillées, je poursuis mes lectures et donc je donne mes cours. Et je vais repartir au mois de février pour poursuivre le dépouillement des archives, puisque les archives sont à Berlin. Pour l'instant, j'ai travaillé surtout sur les années 60 et les dossiers de patients hommes. Et donc là, il faut que je continue avec les dossiers de patients femmes. Il faut que je vois... selon mes possibilités logistiques, jusqu'où est-ce que je vais pouvoir aller. Pour ce qui est des entretiens avec des témoins, que ce soit des membres du personnel ou des anciens patients, pour l'instant, je laisse ça un petit peu entre parenthèses et j'attends d'avoir un peu plus de matière pour savoir déjà si je vais le faire et dans quelles conditions je pourrais le faire.
Donc vous avez déjà épluché quelques dossiers. Du coup, qu'est-ce que vous avez appris ?
J'ai dépouillé des dossiers de patients plutôt dans les années 60, donc des dossiers de patients hommes. Et j'ai déjà pu développer des premières pistes de recherche, notamment concernant l'influence de l'identité politique dans le parcours d'un patient au sein du contexte psychiatrique, ou alors dans quelle mesure l'appartenance au parti peut être une ressource à la fois pour le patient ou à la fois pour les membres du personnel. Donc quelque chose de tout à fait étonnant pour nous qui vivons dans des sociétés qui ne sont pas des sociétés à régime socialiste ou de dictature. Par exemple, le fait que l'identité politique d'un patient puisse être un moyen pour lui de se différencier de la masse des autres patients. Ou alors le fait qu'il s'appuie sur cette identité politique, donc le fait qu'il appartienne au parti, pour demander à être soigné par tel médecin ou un autre médecin. Par exemple, dans un dossier, j'ai pu observer le cas d'un patient qui refusait de se faire soigner par un médecin et qui demandait expressément avoir la carte du parti avant d'accepter de se faire soigner. Donc ce faisant, il remettait en cause en fait... à la fois les capacités soignantes du médecin, et il s'avançait en tant qu'individu avec des convictions politiques. Il écartait un peu le rôle de patient qu'on essayait de lui donner. Donc en fait, au fil de ma recherche, j'ai pu constater qu'il y avait bien une différenciation sociale au sein de la clinique entre les personnes qui faisaient partie du parti unique et les autres, en fait, et qu'on pouvait jouer là-dessus pour à la fois se différencier de la masse des patients ou pour négocier avec les patients.
Donc on observe une certaine liberté d'expression au sein de cette clinique. Est-ce qu'il y avait d'autres sujets sur lesquels ils s'exprimaient facilement et dont on n'avait pas forcément le droit de parler à l'extérieur ?
Bien sûr, alors il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans les dossiers, étonnamment. Donc il faut souligner le fait que le contexte psychiatrique est un contexte assez particulier puisqu'on ne soigne pas que le corps du patient, mais également son esprit. Donc il est laissé une très large place à la parole du patient au sein du dossier. Donc le patient s'exprime et c'est retranscrit dans le dossier. Donc après, on peut récupérer ça comme un témoignage historique. Et dans certains dossiers, apparaît le refus de la dictature, le rejet du système communiste. Et là, les patients s'expriment librement et c'est en contraste en fait avec l'autocensure ou la censure qui règne à l'extérieur. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il y a une certaine liberté de ton qui est accordée aux patients au sein de cette clinique psychiatrique. Et même dans plusieurs dossiers est évoqué le fait que les patients veulent fuir la RDA et ils détaillent avec beaucoup de précision leur projet de fuite. Et il faut savoir que la fuite était criminalisée, c'est-à-dire que si on savait qu'une personne avait même un projet de fuite, on pouvait avoir des ennuis, enfin de très gros ennuis même, c'est un euphémisme, et finir en prison en fait. Donc l'exemple d'un patient qui explique qu'il ne peut plus supporter de vivre en dictature et qu'il a pour but de reprendre en fait le système de canalisation de Berlin pour essayer de passer en dessous. Enfin bon, il y a beaucoup de choses en fait, même des projets de fuite qui sont concrètement mis en avant. Et cette liberté de ton, ça nous permet concrètement de voir comment la dictature est vécue au quotidien par des personnes. On a des témoignages précis avec des détails qui nous montrent finalement comment les individus pouvaient vivre sous cette dictature.
Et tout de suite, une petite pause musicale. On écoute Alam avec le titre « Let's Talk ».
Talk, talk, and talk.
De retour dans le labomatique avec Fanny Le Bonhomme, nous lui avons demandé quelles étaient les pathologies et le profil des patients de la clinique psychiatrique où elle étudie les archives.
Alors, donc il y avait un peu de tout dans cette clinique universitaire qui se trouve donc à Berlin. C'était une sorte d'établissement de pointe et généralement la durée d'hospitalisation n'était pas très très longue. Donc on pouvait avoir des pathologies très légères, des dépressions, des états d'anxiété, même parfois des inhibitions, des névroses sexuelles, enfin un peu de tout. Et ça pouvait aller jusqu'à la schizophrénie, l'hébéphrénie, enfin des pathologies très très lourdes. Où les durées d'hospitalisation allaient jusqu'à un an. Mais généralement, la durée d'hospitalisation, je pense qu'elle était autour d'un mois, un mois et demi, deux mois. Quand les patients en fait, étaient hospitalisés trop longtemps, généralement, ils étaient transférés dans d'autres établissements psychiatriques.
En examinant les archives, vous avez réalisé que finalement, l'image de l'Ouest, de la part des habitants de la RDA, était très très positive.
Oui, globalement, c'était à la lecture des archives, on s'aperçoit que malgré la propagande extérieure qui fait de l'Ouest le règne du capitalisme et de l'inégalitarisme, enfin bon, quelque chose de très très négatif. Bon, ça, on n'était pas dupes. Enfin, on savait très bien que les Allemands de l'Est avaient une autre vision de ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Mais concrètement, là, que ce soit dans les dossiers où la parole du patient est plutôt cohérente ou dans les dossiers où les patients délirent complètement, l'Ouest est toujours vu comme quelque chose de très positif, comme un refuge, synonyme d'ascension sociale, de richesse, etc. Et justement, ces images viennent en contradiction avec la propagande idéologique qui est active à l'extérieur. Cette image de l'Ouest est aussi utilisée par les patients pour négocier en fait, avec le personnel. Par exemple, quand le traitement ne leur convient pas, que ce soit un traitement psychothérapeutique ou autre chose, beaucoup disent que je vais partir à l'Ouest, en fait, alors que c'est interdit. En fait, ils essayent de négocier un petit peu ou de faire jouer la concurrence entre l'Est et l'Ouest. Ils sont en plein dans la guerre froide pour obtenir ce qu'ils veulent, que ce soit dans le cadre d'un délire ou dans le cadre d'une pathologie plus légère.
Pour se faire une petite idée, comment est-ce que vivaient les gens, en fait, ceux qui n'étaient pas donc, dans la clinique au quotidien au sein de la RDA ?
Ce qu'on peut dire en quelques mots, c'est que donc on sait que c'est un régime dictatorial. Et pour décrire en fait, ce régime dictatorial et la façon dont les personnes vivent au quotidien, on peut utiliser l'expression « dictature des limites » pour montrer que finalement, dans leur vie quotidienne, les citoyens d'Allemagne de l'Est étaient toujours confrontés aux limites de leur autonomie en fait. Dans quelques domaines que ce soit, l'idéologie et le pouvoir politique étant omniprésents, ils avaient intégré en fait ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et toujours ils étaient confrontés à ces limites-là, que ce soit à l'école ou dans l'entreprise, au syndicat, dans la rue, etc. Il y avait un cadre contraignant très très fort en fait. Ce qu'on peut retenir en fait de cette vie quotidienne, c'est l'omniprésence du pouvoir politique, l'omniprésence de l'idéologie. Et c'est vraiment, je pense, ces deux traits qui peuvent caractériser la vie quotidienne en RDA.
Donc actuellement, vous étudiez les archives des années 1960 pour les hommes. Et jusqu'où est-ce que vous allez aller ? Enfin, jusqu'à quelle année ? Et est-ce que vous allez étudier aussi les dossiers des femmes ?
Alors oui, je vais étudier les dossiers des femmes. Et lors de mon prochain séjour en Allemagne, c'est l'objectif en fait que je me suis fixé de continuer sur les années 60, mais de passer aux côtés des patientes en fait. Ensuite, jusqu'où je vais aller, je ne le sais pas encore. Ça va dépendre aussi de ma capacité de travail et ça va dépendre aussi de l'évolution de mon questionnement et de l'évolution des problématiques ou des pistes de recherche que je vais développer. Il faut savoir qu'en fait, je ne pourrais pas aller jusqu'en 89, c'est sûr, parce que les dossiers en fait, sont transférés après un certain laps de temps. En fait. Et donc là, par exemple, les dossiers auxquels je pourrais avoir accès, ce sont les dossiers qui vont jusque dans les années, au milieu des années 70. Et donc, au maximum, je pourrais aller, je pense, jusqu'à cette date-là, et encore.
D'accord, donc votre travail, donc d'étudier toutes ces archives, qu'est-ce que ça permet au final ? Est-ce que ça permet peut-être de comprendre notre société actuelle ?
Bien sûr, alors je pense que ça a plusieurs utilités. Tout d'abord, ça permet de mieux comprendre en fait, le fonctionnement concret d'une dictature avec tous ces témoignages que je peux recueillir dans les dossiers médicaux. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne concrètement, en fait. De quoi peuvent souffrir les gens qui sont en dictature au quotidien, comment ça marche, mm-hmm. tout simplement. Ça apporte des choses à la recherche en histoire sur la République démocratique allemande et sur la dictature communiste en général. Et dans un deuxième temps, je pense que ça peut... Enfin, moi, en tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait. Ça permet peut-être de revaloriser aussi la parole du patient ou la parole de l'individu qui se trouve dans un contexte psychiatrique. d'apporter un autre éclairage en fait sur le statut de cette parole ou alors sur les a priori ou les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes qui évoluent dans un univers psychiatrique, hein, que ce soit les patients ou le personnel, et peut-être de comprendre mieux finalement l'univers psychiatrique actuel finalement et toutes ces problématiques. Et pour finir, je pense que l'intérêt de ce travail, c'est aussi d'allier les outils de la sociologie et ceux de l'histoire afin de pouvoir comprendre le fonctionnement des sociétés de régime socialiste. Et c'est une des pistes méthodologiques en fait qui est beaucoup développée en ce moment dans le cadre des recherches françaises sur la RDA.
Merci beaucoup.
Merci.
Vous pouvez retrouver toute la programmation de Radio Campus Rennes sur le site internet de la radio au www.radiocampusrennes.fr. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique.